Vous pouvez vous asseoir. Merci. Bon Seigneur, soyez vivement remerciés de présider la célébration eucharistique en la fête de la présentation de Jésus au Temple et par grâce, fête de la vie consacrée. Vous témoignez votre sollicitude, votre amitié, votre confiance à la vie consacrée au Seigneur dans votre diocèse. Et le nôtre, bien sûr. Chers frères et sœurs de la vie consacrée, chers amis, qui nous offrez la joie de votre présence ou qui êtes en communion par les réseaux sociaux, nous sommes dans l'action de grâce pour bien des raisons. D'abord, pour le fait de pouvoir nous réunir, consacrés, religieuses, religieux, en cette solennité, après un long temps d'attente. Nous avons une pensée particulière pour ceux qui auraient aimé être là et qui ne le peuvent pour bien des raisons, particulièrement sur Geneviève et sur d'Arquenay en confinement, et aussi à ceux et celles qui ont rejoint le cœur du Père l'an passé et en ce mois de janvier. Action de grâce, bien sûr, pour notre synode diocésain, action de grâce pour cette année jubilaire du 150e anniversaire de l'apparition de Marie à Pontmain. Action de grâce aussi parce que, précisément, nous sommes dans l'année jubilaire des 50 ans de fondation de notre institut, jubilé, inauguré le 8 septembre par une neuvaine et qui s'achèvera le 8 décembre 2021. Aujourd'hui, malgré nous, le confinement relatif du pays nous fait vivre dans l'effacement et la discrétion cet anniversaire de la naissance de la fondation en ce lieu. 50 ans de fondation de notre institut qui s'inscrit dans la vie de l'Église avec ses notes caractéristiques d'une vie canoniale et apostolique. 50 ans de vie façonnée par l'épreuve, habitée par la ferveur, la simplicité, la joie, le sens de l'accueil, de l'hospitalité. Et nous avons voulu les traduire dans une exposition que vous pourrez découvrir à l'issue de la célébration. Pour reprendre les termes de la lettre qu'il adresse à tous les consacrés pour la fête de la présentation de Jésus au Temple, le cardinal Bras de Avise se fait l'écho du pape François en son encyclique Fratelli Tutti lorsqu'il nous invite à mettre en œuvre un nouveau rêve de fraternité et d'amitié sociale. Ainsi dit-il, rêvons en tant qu'une seule et même humanité comme des voyageurs partageant la même chair humaine, comme des enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères. Ainsi, à l'horizon de ce rêve confié à nos mains, à notre passion, à notre persévérance, le 2 février sera aussi cette année une belle fête pour louer et remercier le Seigneur pour le don de notre vocation et de notre mission. Aujourd'hui, notre action de grâce pour ces 50 années écoulées, l'année jubilaire d'apparition de Notre-Dame pour main, le synode diocésain, nous ouvre sur un avenir de foi et d'espérance, sur le chemin de fraternité tant désiré par le pape François. Aujourd'hui, dans la lumière de la présentation de Jésus au Temple par Marie et Joseph, notre action de grâce se concentre sur l'amour de Dieu en lui-même, sur l'amour de Dieu pour nous et sur notre amour pour Dieu. Saint Augustin, et j'aime le citer, on a saisi le sens et la portée lorsqu'il s'écrit dans les soliloques « Ô Dieu, vous délaissez, c'est périr. Vous contempler, c'est vous aimer. Vous voir, c'est vous posséder. Ô Dieu, c'est vers vous que la foi pousse. C'est vers vous que l'espérance nous élève. C'est à vous que la charité nous unit. Désormais, je n'aime que vous. Je ne m'attache qu'à vous. Je ne cherche que vous. Je ne veux servir que vous. » Tous ensemble, nous faisons nôtre cette belle prière de saint Augustin. Nous remercions le Seigneur, nous sommes dans l'allégresse, la joie et la reconnaissance. Les vies consacrées au Seigneur nous offre beaucoup de raisons de rendre grâce et chacun peut le faire dans son cœur. Que l'Eucharistie de ce jour soit notre offrande, comme elle le fut pour Marie, associée à l'offrande de Jésus lors de sa présentation au Temple. Heureux sommes-nous d'avoir accueilli l'appel du Seigneur dans le don de notre vie, à l'appel du Seigneur, en attendant le jour bienheureux où nous pourrons contempler avec Marie et tous les anges et tous les saints l'amour de Dieu. Ainsi soit-il. Nous pouvons nous lever.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,
Amen.
La paix soit avec vous. Voilà, simplement, je voudrais m'associer à l'action de grâce exprimée par le frère Jean-François, prieur de cette communauté, tandis que nous commémorons le 50e anniversaire de la fondation de ce prieuré. Et puis dire que nous nous associons aussi à tous ceux et celles qui auraient voulu être là ce matin et qui n'ont pas pu, qui ont fait le choix de vivre autrement cette fête de la vie consacrée. J'ai eu plusieurs messages sur mes mails là, dernièrement de religieuses qui m'ont dit ben, on aurait bien voulu venir, mais on ne peut pas cette fois-ci, mais on est tout cœur avec vous. Voilà, donc nous élargissons notre assemblée à tous ceux et celles qui sont unis par le cœur et la prière.
Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut au jour ancien, dans les années d'autrefois. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé, lui aussi, pareilles conditions. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie de Dieu. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera transpercée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fils de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge, après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur
Jésus. Voilà, mes amis, dans son beau message d'introduction, le frère Jean-François, tout à l'heure, évoquait la belle encyclique du pape François, Fratelli Tutti. Bien sûr, j'aurais pu contempler un peu la vie consacrée par le prisme de la fraternité, ça va de soi, mais comme je l'ai déjà eu l'occasion de le faire les années précédentes, régulièrement, je reviens bien sûr sur le thème de la fraternité, et comme par ailleurs ça fait la 12e fois que je préside la célébration au milieu de vous, je me dis il faut que je trouve des choses nouvelles à dire, autrement ils vont un peu s'user, mes frères et mes sœurs. Alors j'ai fait le choix ce matin de revisiter notre propre appel à la vie consacrée dans la lumière de la vocation de Saint Joseph. Voilà. Et bien sûr, je ne suis pas allé très loin pour trouver la source inspiratrice. C'est un autre texte du pape François, sa lettre apostolique Patris Cordae, un cœur de père, qui nous en offre un peu l'opportunité. Vous savez que le pape François l'a publié, cette lettre, pour marquer le 150e anniversaire de la proclamation par le pape Pie IX de Saint-Joseph comme patron de l'Église catholique. C'était le 8 décembre 1870. Et alors je me suis posé la question, que peut nous apporter Saint-Joseph à nous consacrés? Que pouvons-nous accueillir comme exemple et encouragement de son témoignage et de sa vie? Bien, deux choses, au moins. D'abord, son effacement et son humilité. Joseph, en effet, n'a rien d'un m'as-tu vu, d'un homme en besoin de reconnaissance. Non. François nous dit qu'il est vécu en cachette dans le petit village inconnu de Nazareth en Galilée, d'où il était dit qu'il ne surgit aucun prophète et qu'il ne peut jamais en sortir rien de bon. C'est peut-être la première lumière que nous pouvons recevoir de Joseph pour nous consacrer. Comme lui, nous sommes convoqués à un style de vie et de présence au monde marqué par l'humilité, la simplicité et la discrétion, un peu à l'image du grain de sénevé de l'Évangile. Pour vivre heureux, vivons cachés. Vous connaissez cette citation célèbre. Saint Paul le dit avec plus de profondeur encore, notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Se cacher en Dieu ne veut pas dire évidemment fuir le monde. Ce qu'il faut fuir, ce n'est pas le monde, mais sa mondanité. Cet appel est sans doute plus impérieux dans le contexte de sécularisation qui gagne nos sociétés occidentales jadis chrétiennes. Nous devons, sereinement et sans nostalgie, faire le constat d'un effacement ou d'un retrait des valeurs chrétiennes du champ de la culture contemporaine et en tirer les conséquences pour nous-mêmes et par rapport à la manière de vivre notre appel singulier. Car c'est précisément dans ce contexte de marginalisation de la foi que notre témoignage est aujourd'hui attendu. Caché aux yeux du monde, notre existence peut, à l'école de Marie et de Joseph, devenir rayonnante de l'amour et de la paix du Christ. Cela exige bien sûr un surcroît de détermination et de force intérieure et cette attitude profondément théologale qui refuse les ruminations moroses et se traduit par une fidélité sans cesse renouvelée à la joie de Jésus. Aussi, la grâce à demander à Saint Joseph est de tenir, quoi qu'il en coûte, notre poste de veilleur. Quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire dans ses dispositions intérieures même par lesquelles Joseph fut appelé à rendre témoignage à Dieu, lui qui espéra contre toute espérance. L'effacement et l'humilité de Joseph, peut-être première lumière à accueillir pour nos vies de consacrés. Ensuite, deuxième lumière, son attachement inconditionnel à la personne de Jésus. Ce sont les tout premiers mots de l'exhortation du pape François. Je cite, « Avec un cœur de père, c'est ainsi que Joseph a aimé Jésus. » De quelle manière Jésus a-t-il aimé l'enfant confié par Dieu à ses soins et à sa garde? Avec tendresse, avec courage, avec responsabilité. Avec tendresse d'abord. L'Évangile ne parle pas, bien sûr, d'attitude affectée ou sentimentale de la part de Joseph. Sobrement, il relève à plusieurs reprises cette expression suggestive « Joseph prit l'enfant et sa mère ». C'est par mille prévenances et attentions du cœur que Joseph a exprimé le prix que Jésus et Marie avaient à ses yeux. Et donc je pose la question, est-ce que nous aimons Jésus avec tendresse? Et cette tendresse se manifeste-t-elle dans nos relations avec nos frères et sœurs de communauté et avec tous ceux et celles que le Seigneur place sur la route de notre apostolat? Avec tendresse, d'abord, avec courage, ensuite. Un courage créatif, nous dit le pape. On sait les difficultés inouïes par lesquelles Joseph a dû passer pour protéger Jésus et sa mère des dangers qui menaçaient sa vie. Devant une difficulté, écrit François, notre pape, on peut s'arrêter et abandonner la partie, ou bien on peut se donner de la peine. Qu'a fait Joseph? Il a choisi résolument de relever les défis dans des conditions parfois périlleuses. Pensons à la fuite en Égypte face aux menaces du roi Hérode. Joseph, nous dit le pape François, est le vrai miracle par lequel Dieu sauve l'enfant et sa mère. Joseph est le modèle, peut-être le modèle pour nous, de ceux qui, loin de capituler, de baisser les bras, savent transformer un problème en opportunité pour franchir justement les obstacles et aller de l'avant. Avec tendresse, avec courage, un courage créatif, avec responsabilité, enfin. La première responsabilité d'un père est éducative. Elle est de transmettre à ses enfants les valeurs qui confèrent à l'existence humaine son sens et sa dignité. C'est ainsi que Jésus a appris de Joseph la valeur du travail, la fierté et la joie de pouvoir manger le pain que l'on a gagné à la sueur de son front. Et est-ce que nous, quand nous nous mettons à table, nous le faisons avec cette fierté d'avoir aussi gagné notre pain ? Et avec la joie d'avoir pu transmettre aussi aux autres, avec responsabilité, les valeurs de l'Évangile dans l'apostolat qui nous est confié. Il n'est pas difficile d'appliquer tout cela à la réalité de nos situations de consacrés. En ces temps incertains que traversent nos institutions et nos communautés, il nous est demandé, je crois, principalement deux choses. Aimer Jésus par-dessus tout et le faire aimer. Je lisais tout récemment, là, sous la plume du père Michel Giton, qui est prêtre du diocèse de Paris, fondateur de la communauté apostolique Ein Carême, ces mots avec un peu d'humour. Il dit « Les religieux et les religieuses ne sont pas là pour faire joli et nous rappeler le Moyen-Âge, ils sont là parce que l'amour du Christ a tous les droits et qu'il nous entraîne au large. » Aimer Jésus par-dessus tout et le faire aimer. Et puis, au cœur des vicissitudes, parce qu'il y en a, nous abandonner plus que jamais à la providence en prenant le parti de la confiance. Je trouve particulièrement éclairant ce que dit François au numéro 4, je cite, toujours dans sa lettre apostolique. « La vie spirituelle que Joseph nous montre n'est pas un chemin qui explique, mais un chemin qui accueille. Seul le Seigneur peut nous donner la force d'accueillir la vie telle qu'elle est, de faire aussi place à cette partie contradictoire, inattendue, décevant de l'existence. » Fin de citation. Une autre manière de nous dire que notre vie de foi, et nous en faisons tous l'expérience, n'est pas un chemin rectiligne, mais un chemin qui connaît des passages lumineux et des tunnels obscurs, des horizons ouverts et des sentiers tortueux et parfois incertains. C'est cette existence concrète, avec ses hauts et ses bas, que la Providence veut accompagner de sa bienveillance. Vous serez sans doute d'accord avec moi, il vaut mieux avancer boiteux, mais joyeux sur la route de l'Évangile que de piétiner et de faire du surplace en cultivant la tristesse et la morosité. Alors permettez-moi justement pour conclure d'ajouter une dernière considération en lien plus particulier avec la crise sanitaire que nous traversons. Si Joseph a été l'homme des attentions concrètes aux besoins de la Sainte Famille, à ses nécessités matérielles et vitales, l'Évangile le montre tourné résolument vers une vie plus grande que la vie simplement organique ou biologique, qui est la vie éternelle, but ultime de l'existence des hommes. Or, nous voyons la focalisation qui s'est produite ces derniers mois sur ce qu'on pourrait appeler le pan-médicalisme ou le tout sanitaire. La santé est devenue notre dogme, la survie notre préoccupation première. Or, si nous limitons notre existence à cet horizon restreint, notre vie court le risque de l'insignifiance. Comme le dit François dans son exhortation Patris Cordier, à nouveau, au lieu de se faire signe de la beauté et de la joie de l'amour, elle, notre existence, risque de n'exprimer que malheur, tristesse et frustration. Bien sûr qu'il faut prendre soin de soi et le faire pour ne pas mettre les autres en danger, et c'est pas moi, votre évêque, qui va vous inciter à ne pas vous conformer aux règles en vigueur. Et c'est d'ailleurs ce qui a conduit François lui-même à encourager la vaccination. Mais il peut y avoir une manière excessive de se préoccuper de soi, de sa santé, qui obscurcit l'horizon eschatologique de la vie chrétienne en général et de la vie consacrée en particulier. Je vous encourage à lire à ce propos un petit livre paru dernièrement, « La déraison sanitaire » d'Alexandra Léniel-Lavastine. Ce livre est un vif réquisitoire contre le culte de la vie par-dessus tout. L'auteur, qui est philosophe et historienne des idées, nous invite à voir notre vie de confinée autrement et dans tous ses aspects, pas simplement biologiques, mais aussi spirituels, politiques, moraux, métaphysiques. Demandons à Joseph de réveiller en nous l'amour brûlant de Jésus et de son Église, la confiance inébranlable en Dieu en toutes circonstances et cet élan joyeux vers le royaume nouveau dont nos existences de consacrés doivent être le signe. Amen.